Dress Code 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jeans, perfecto, Ray-Ban, escarpin, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.
Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission, donc Dress Code 31. Donc aujourd'hui, on va vous parler du blue jean. Voilà, donc c'est une émission qui sera en deux parties, puisqu'il y a beaucoup à dire sur le blue jean. Et donc on va faire ça en deux fois. Alors juste un petit rappel par rapport à l'émission de la dernière fois, où on a parlé du Duffelcoat. Donc il y a deux auditeurs, on a au moins deux auditeurs, c'est bien, qui nous ont fait remarquer, d'une part, que une des grandes figures quand même françaises qui porte le Duffelcoat, c'était l'abbé Pierre. Hein, donc voilà, un petit clin d'œil à l'abbé Pierre avec ses sandales. Et son Duffelcoat. Et puis aussi que le premier bouton du Duffelcoat, hein, on rappelle que c'était des boutons en bois, en fait servait de sifflet aussi, ce qui permettait aux soldats, quand il y avait du brouillard, de pouvoir se retrouver, ou aussi pour les marins, ceux qui tombaient à l'eau, eh bien, de signaler à peu près là où ils étaient. Voilà. Donc, maintenant, nous allons vous parler du jean. Voilà. Tout à fait. Donc, alors le jean, hein, ou une paire de jeans, comme on dit, comme disent les anglo-saxons, c'est un pantalon à couture qui est coupé dans une toile de Nîmes, renforcée par des rivets, qui à l'origine est un vêtement de travail. Et par extension, le denim est lui-même dénommé jean. Alors, denim, ça s'écrit D-E-N-I-M, mais on verra après quelle origine ça a. Donc au XVIe siècle, la République indépendante de Gênes, en Italie, est à son apogée. Et ses tissus sont réputés, et parmi eux, une toile de laine et de lin servent à fabriquer des voiles pour les navires, des bâches, mais aussi des pantalons solides pour les marins.
Tout à fait. Donc importée dans le Nouveau Monde, cette toile de Gênes s'anglicise et par phonétique devient le jean. Au XVIIIe siècle, la robuste toile de jean est utilisée notamment pour la confection de vêtements destinés aux esclaves dans les plantations. En 1853, ce sont des tentes et des bâches faites de ce tissu qu'un certain Lévi-Strauss, immigré allemand de 24 ans, tentera de vendre aux chercheurs d'or des mines de Californie. Mais finalement, c'est en taillant dedans des salopettes et des pantalons que son commerce fleurira. Ces pantalons prendront bientôt le nom du tissu dans lequel ils sont confectionnés, le jean. Il se décline alors en teinte brune.
Voilà, et donc Lévi-Strauss va décider aux alentours de 1860 de remplacer ce lourd tissu peu adapté à cette confection par une toile à armure de serge en coton, le denim, évolution du sergé de Nîmes, hein, donc de la ville de Nîmes en France, étoffe produite dans la ville française depuis le XVIIe siècle. Le denim est alors communément teinté de bleu indigo, donc c'est la naissance du blue jean. Donc on va écouter une petite musique alors, et là on va écouter donc Marilyn Monroe dans le film La rivière sans retour. Alors vous savez, c'est ce genre de western, hein, d'auto-priminger qui a été fait en 1954. Et là dans ce film, alors précisément la séquence où vous allez là entendre Marilyn chanter Down in the Middle, elle porte un joli jean étroit. Et non pas large, hein, comme il est décrit. Donc là, ils ont voilà, peut-être une petite erreur au niveau du costumier. Et donc, elle porte un jean étroit et puis avec un joli chemisier fleuri. Donc, on va écouter Marilyn Monroe. When Mr. Southwind sighs in the pine, old Mr. Winter whimpers and whines. Down in the meadow, under the snow, April is teaching green things to grow. When Mr. West Wind hums in the glade, old Mr. Summer nods in the shade. Down in the meadow, under the brook, catfish are waiting for the hook. Oh, lady,
blackbird flirts with the scarecrow. Scarecrow is waving at the moon. Old Mr. Moon makes hearts everywhere go bump, bump with the magic of June.
All right, come again.
When Mr. East Wind shouts overhead, then all the leaves turn yellow and red. Down in the meadow, corn stalks are high, pumpkins are ripe and ready for pie.
Alors, 1871, Jacob Davis, tailleur à Reno dans le Nevada, est fourni en dénime par la désormais entreprise Strauss, à l'idée de renforcer les coutures, notamment des poches, grâce à des rivets de cuivre. Ne possédant pas la somme nécessaire, il propose à Lévi-Strauss de déposer en commun un brevet faisant des deux hommes les co-inventeurs du blue jean, doté de rivets aux poches. Dès lors, le blue jean s'impose auprès des travailleurs comme le pantalon le plus robuste et durable sans commune mesure avec la concurrence. Excusez-moi. En 1885, il faut débourser 1,25$ pour acquérir un Levi's.
Grâce Ça au... a bien changé.
C'est clair. Maintenant, c'est 125$. Grâce au brevet, Lévi-Strauss & Co. bénéficiera du monopole de fabrication des pantalons à rivets pendant 20 ans, jusqu'aux années 1890. Ce brevet expiré, c'est par dizaines que des entreprises se lanceront dans la fabrication de produits concurrents.
Eh oui. Donc, juste pour revenir sur la petite chanson de Marilyn, là, alors, en fond, ce qu'on entend, hein, c'est les chutes de la rivière qui vont finir, qui descendent, en fait, hein, pour arriver jusqu'à la mine d'or, justement. Voilà. Donc, alors, quant à Lee, ça sera créé en 1889 et il va commercialiser ses premiers jeans en 1911, tandis que le Bluebell, qui deviendra par la suite Wrangler, est créé en 1904. Lee Company lancera en 1926 le premier jean zippé, donc avec une fermeture éclair. Entre-temps, Lévi-Strauss va personnaliser les vêtements d'une double piqûre surpiqûre décorative sur les poches arrière en 1875 et en 1886 d'un patch en cuir servant de garantie.
Voilà, avec la taille écrite.
Voilà, la longueur. Alors, les jeans donc de production Lévi-Strauss & Co. des premiers temps conservent les attributs caractéristiques des vêtements de travail de la marque à destination des bûcherons et de chercheurs d'or. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont ces caractéristiques, Sophie ?
Alors, c'est une coupe très large, il y a une poche unique au dos, il y a une martingale, une demi-ceinture placée à l'arrière resserrant la taille, présence de boutons pour les bretelles, surpiqûre en lin orange sur les poches arrière pour les assortir aux rivets de cuivre, ça à partir de 1873, et poche à outils latérales sur certains modèles. La forme considérée comme classique comporte 5 poches. La cinquième petite poche accolée sur la poche droite est un dérivé de la poche goussée pour mettre sa montre. Une braguette à boutons timbrés, des surpiqûres orange assorties au cuivre dérivé et une étiquette de faux cuir cousu à la taille. Il correspond au millésime de 1947 du 501 de Lévi-Strauss & Co. L'alternative également classique est représentée par le 101Z à fermeture à glissière de la marque Lee. À l'origine, vêtements des travailleurs manuels américains à la fin du 19e siècle, devenu ensuite vêtement emblématique des États-Unis, le port quotidien du jean est aujourd'hui répandu sur tous les continents et dans toutes les catégories sociales.
Voilà, et même en Europe, hein, où ce vêtement était beaucoup plus cher que dans son pays d'origine, environ 3 à 4 fois plus élevé en raison des taxes douanières auxquelles il était soumis. Il a d'abord été populaire dans les années 50 chez les blousons noirs, ce qui lui a donné initialement une très mauvaise presse, en faisant un symbole de marginalité, voire de délinquance. Donc c'était très mal vu de porter un jean. Et au début des années 60, son port était rigoureusement prohibé dans de nombreux lycées et collèges. Ça, moi je m'en rappelle ça, au lycée c'était interdit. Au cours de la décennie, il est progressivement imposé comme tenue de loisir, d'abord chez les jeunes, jusqu'à devenir de nos jours socialement admis dans tous les milieux et dans toutes les classes sociales. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui jamais ne porterait de blue jean, parce que vraiment c'est trop, voilà, ça fait pas bien de porter un jean. Donc, bah, on va écouter un de nos rockers de l'époque, là, qui lui est bien français, donc qui s'appelle Dick Rivers, et qui va chanter « Maman n'aime pas ma musique ». Donc voilà, si l'on accepte l'attrait de son image, hein, qui est légitimement associée à l'Amérique et à sa façon de vivre, hein, ce qu'on appelait l'American Way of Life, le confort et la robustesse sont probablement quand même les atouts majeurs qui vont permettre aux pantalons en jeans de résister aux modes et bien souvent de s'y adapter. Alors si on fait un bref récapitulatif, Sophie, tu peux nous dire un petit peu...
Oui, alors on commence en 1889, donc The Lee Company voit le jour à Salina au Kansas. L'esprit d'innovation de la société et son sens de la publicité feront de Lee, 50 ans plus tard, la première entreprise dans le secteur du vêtement de travail. En 1912, l'entreprise Levi Strauss & Co. crée la Coverall, combinaison en denim pour les enfants, étendant pour la première fois son marché à l'ensemble des États-Unis. En 1922, les passants au niveau de la ceinture apparaissent et plus en plus des bretelles qui disparaissent progressivement. En 1929, le jean peu cher est adopté par les paysans et les travailleurs citadins lors de la Grande Dépression, comme dans le film Les raisins de la colère. En 1930, Levi Strauss & Co. utilise l'emblème mythique du cow-boy portant un jean dans la publicité. En 1933, dans le cadre du New Deal,
alors le New Deal, vous savez, c'est le nom qui a été donné par le président américain Franklin Delano Roosevelt à sa politique interventionniste qui a été mise en place pour lutter contre les effets de la Grande Dépression aux États-Unis. Mmh. Et donc ce programme s'est déroulé entre 1933 et 1938 avec pour objectif de soutenir les couches les plus pauvres de la population. Voilà. Et des dizaines de milliers de salopettes en denim ont été distribuées aux déshérités. Voilà ce qui en a fait ça, sa grande popularité.
New Deal, quoi.
Voilà.
1935, le jean est désormais un pantalon qui devient à la mode, comme en atteste la couverture du magazine Vogue le 15 mai. Illustration de deux femmes portant des Levi's avec le slogan « True Western Chic was invented by cowboys ». En 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les magasins de surplus américains écoulent leur stock de jeans dans toute l'Europe, où ils s'imposent progressivement grâce à la publicité et à leur placement dans des films américains. Normal.
Voilà. Et donc, un des musiciens américains emblématiques hein, de ces époques 50-60, enfin plutôt 60, eh bien Bob Dylan, il avait aussi toujours, lui, il portait toujours... porter des jeans. Alors du coup, on va écouter Mr. Tambourineman.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Hear laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. That's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yesterday's beneath the diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Voilà, donc Bob Dylan. Alors bien sûr, au début des années 50, je rappelle encore, le jean symbolise la révolte de la jeune génération. On l'associe au blouson noir et à la Harley. C'est le phénomène adolescent. Il sera même interdit donc dans les écoles aux États-Unis et en France, on l'a dit tout à l'heure. Et donc il va être porté par des personnes comme James Dean, Marlon Brando, voilà. Et donc quand même, le jean reste un vêtement de travail qui ne se portait pas pour sortir ou aller travailler. On le mettait chez soi pour ses loisirs, en décontracté ou pour aller faire des travaux dans la ferme, bricoler sa moto, mais pour aller travailler. Et en fait, Steve McQueen, l'acteur, donc, lui avait adopté aussi le jean, donc il ne quittait plus. Et donc, il fit scandale en se rendant à une soirée en jean et en blouson. Et donc, il s'est fait jeter de la soirée où il y avait tout un tas d'acteurs, de comédiens, tout ça qui étaient là parce qu'il n'avait pas du tout la tenue adéquate. Et donc, c'est grâce à lui, entre autres, que le jean s'est démocratisé. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 60, le modèle des jeans ne va pas beaucoup évoluer. C'est en fait le mouvement hippie qui lancera les premières évolutions. Alors, variation, au niveau des couleurs, de la forme, de la coupe aussi. Vous vous rappelez les pattes d'ef, tout ça, les broderies, les ornementations, et puis les rapiécements, c'est-à-dire toutes les pièces qu'on rajoutait, tout ça, les franges en bas du jean, etc. Voilà. Donc le code vestimentaire est le symbole de la génération hippie. Le jean, évidemment, c'est la patte d'éléphant. C'est plus des jeans étroits, etc. Et donc pendant les années 60-70, le jean va se transformer de plus en plus. On le personnalise, on le peint, on le brode, donc on coud des coquillages, etc. On y met des strass, des bijoux, des fleurs, des motifs peace and love. Le bas de la jambe s'allonge. Et donc, vous vous rappelez donc les pattes d'ef qui reviendront plusieurs fois à la mode plus tard. Et puis, comme ça, chacun peut faire aussi son propre jean personnalisé. Chacun y va de son petit motif, de sa petite broderie, des franges qu'on va faire à loisir. Alors, maintenant, on va écouter un dernier morceau qui s'appelle Born to be Wild, donc écrit par Mars Bonfire et rendu célèbre par le groupe canadien Steppenwolf dans le film Easy Rider, donc écrit réalisé par Dennis Hopper en 1969. Oh, I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Oh, if you live or if you die.
picture.
Voilà, donc c'était Born to be Wild du film Easy Rider. Voilà. Donc, eh bien, on va continuer la semaine prochaine, enfin non, pour la prochaine émission, pardon, la suite voilà, de la saga du jean. Voilà. Donc, bien, à très bientôt alors pour la suite et bonne semaine à vous tous. Au revoir, à bientôt.
Club 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jeans, perfecto, Ray-Ban, escarpins, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.